Inter, le 18-20.
Cela fait 20 ans qu'on en parle une semaine par an, mais pour eux, c'est au quotidien et toute l'année que travailler, tout simplement travailler, peut être un véritable parcours du combattant. Où en est l'emploi des personnes handicapées en France? À première vue, les chiffres s'améliorent d'année en année, avec un taux d'emploi direct aujourd'hui de 3,3%. C'est près de deux fois plus qu'il y a 30 ans, mais c'est près de deux fois moins que les objectifs de la loi de 2005. 6%, c'est le cap, et il semble encore tellement loin. Le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève à 18%, quasiment le double de celui de la population générale. Quels sont donc les freins à l'embauche? Le manque de qualifications, l'âge plus élevé que la moyenne des salariés, certainement, mais pas seulement, car la discrimination, la résistance du collectif de travail sont encore une réalité. Or, les solutions proposées aux entreprises existent, elles sont même nombreuses, souvent méconnues, hélas. Alors que vous soyez handicapé ou non, handicapé salarié ou à la recherche d'un emploi, chef d'entreprise qui emploie ou non des handicapés, venez nous raconter votre expérience, posez toutes les questions que vous souhaitez, dès maintenant au 01 45 24 7000, internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite, au standard de France Inter, c'est Rachid des Yvelines qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Rachid, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, très bien, on vous écoute.
Bonsoir, voilà, je tiens en fin de compte à porter mon témoignage. J'ai un statut de travailleur handicapé, ça fait depuis 3 ans que je lutte pour rentrer dans le marché du travail, c'est très difficile. Et pourtant, c'est pas la qualification qui me manque. J'ai un bac plus 5, je suis psychologue de travail. Les revenus de sort, je suis formé normalement pour accompagner les travailleurs handicapés. Je me retrouve moi-même comme travailleur handicapé. Et je vous cache pas, à chaque fois, j'accède aux entretiens, j'arrive à l'entretien. Et étant donné le vide que j'avais sur mon CV, l'entretien en général, elle va pas aboutir. Du coup, ma candidature, elle est écartée. Donc, je tiens quand même donc à porter mon témoignage sur l'empêchement de pouvoir d'agir, sur le fait qu'on ne laisse pas exprimer les compétences de certains, les compétences qui vont voir même super qualifiées. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai appelé ce soir, pour apporter ce témoignage, pour que les choses puisse boucher peut-être.
Mais écoutez, merci beaucoup Rachid pour ce témoignage qui de fait pose le débat. Et pour en parler ce soir, deux invités, Éric Blanchet, directeur général de l'ADAPT, bonsoir.
Bonsoir.
Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'origine depuis 20 ans donc de cette semaine pour l'emploi. Et bonsoir Philippe Charrier.
Oui, bonsoir.
Président de Clubhouse France, autre association spécifiquement tournée vers les personnes fragilisées par des troubles psychiques. Qui veut répondre à Rachid? Éric Blanchet.
Eh bien écoutez, je pense que le témoignage de monsieur est assez illustratif de la situation dans laquelle se trouvent bon nombre de personnes handicapées. C'est que, bien entendu, souvent on aborde la non-qualification des personnes, mais là, on voit bien un exemple qui, absolument, qui contrecarre. Et on est encore dans la problématique du regard sur la personne handicapée, sur la peur aussi, par rapport aux entrepreneurs, mais pas que ça non plus. C'est-à-dire que si vous voulez, tout simplement, des entreprises aussi ne sont pas toujours prêtes à jouer le jeu de l'embauche de la personne handicapée. Alors ça a bien évolué, comme vous le disiez, mais pas suffisamment aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour l'avenir.
Rachid disait, j'ai un vide sur mon CV causé par la période où il était malade. Est-ce que c'est vraiment ça qui coince à votre avis?
Ça peut être une des raisons, parce que si vous voulez, l'entreprise, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin de sécurité et c'est vrai que tout ce qui est vide ou espace qui n'est pas expliqué crée des questions et peut créer aussi de se dire, voilà, on va embaucher une personne qui va être fragile. Est-ce qu'elle va être en capacité de pouvoir apporter sa compétence sur la durée? Or, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à démontrer à l'entreprise qu'une personne handicapée, elle arrive avec son histoire, mais qu'à travers cette histoire-là, elle a une véritable capacité à produire comme les autres. Et aujourd'hui, la loi de travail va, à travers un amendement, sur l'emploi accompagné, permettre peut-être de passer cette difficulté-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'emploi accompagné, tel qu'il devrait se décliner, en tout cas on l'espère, le décret devrait sortir incessamment sous peu, va permettre d'avoir un tiers qui va justement créer ce lien-là. C'est-à-dire entre la personne qui recherche un emploi ou qui est en emploi, d'avoir une personne qui va faire le lien avec l'entreprise et avec la personne handicapée. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'accompagner les deux.
Philippe Charrier, c'est important cette idée de tierce personne qui va faire le lien?
Oui, c'est absolument vital. Je suis entrepreneur moi-même, hein, donc 90% de mon travail, c'est entreprendre, créer des entreprises, les développer. C'est mon métier. Hein. Je ne suis pas du tout un professionnel dans le domaine du handicap. J'ai créé Clubhouse il y a 6 ans, justement pour ça, parce que les personnes qui souffrent d'un handicap psychique ou d'un handicap psychiatrique, hein, on parle de schizophrénie, bipolarité, dépression extrêmement sévère, ou encore plus de mal à trouver un emploi. Souvent, elles sont seules pendant une dizaine d'années. Le simple diagnostic prend en moyenne pas loin de 10 ans. Donc, ce sont des gens à moitié détruits, plus d'estime d'elles-mêmes du tout, pour travailler. C'est extrêmement difficile. Donc, je comprends vraiment ce que nous dit Rachid. L'approche, elle était simple. Moi, j'ai contacter mes pairs, les entrepreneurs, les industriels, je suis allé les voir et je leur ai dit, ben, ensemble, il faut faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Écoutez, ils ont une...
Première réaction, c'était quoi?
Une écoute attentive, parce que eux sont au courant de ces problèmes dans l'entreprise. Les burn-outs, par exemple. Les burn-outs, c'est une forme d'handicap psychique. Donc, ils ne comprennent pas du tout ces problèmes, ils ont peur. Ils ont peur de pas être capables d'accueillir des gens qui souffrent d'handicap psychiatrique. Et ensemble, on a travaillé. Et aujourd'hui, voyez-vous, j'ai plus de demandes que de capacités à fournir des personnes. Les chiffres sont simples. Hein. On a créé ce clubhouse, on a ouvert le premier clubhouse il y a 5 ans. Nous avons 180 membres aujourd'hui qu'on suit ad vitam aeternam, toute la vie, l'accompagnement. Ils font eux-mêmes, ces membres, des sensibilisations en entreprise. On le fait avec eux. C'est pas nous qui le faisons. C'est ensemble avec les membres. On n'est pas médicaux. On est vraiment actifs dans la société.
Donc vous jouez le rôle de cette tierce personne, voilà, de cet intermédiaire.
Ad vitam aeternam depuis 5 ans. Et les chiffres, sur 180 personnes, j'en ai 43 qui sont déjà au travail, en partant de zéro. Et j'en ai 20 qui sont en recherche active, donc plus du tiers.
On repart au standard où Artus nous appelle de Paris. Bonsoir Artus, soyez le bienvenu.
Oui, ben moi je suis un peu... Disons que moi j'ai double handicap. J'ai un handicap de fragilité psychologique, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Que c'est assez gênant, j'en parle pas dans l'emploi d'ailleurs. Et par contre, je suis aveugle, ça c'est l'atteinte, puisque je suis soigneur pour les chevaux, c'est pour ça que je dis atteinte, je me retrouve dans Rachid, mais est-ce que vraiment un jour, l'entrepreneur qui n'a eu aucune confrontation avec le handicap avant l'entretien d'embauche, fera que l'entretien d'embauche se fera? Et ma question est très simple, peut-on et a-t-on fait le maximum de choses pour adapter l'entreprise? Parce que j'ai entendu à propos de l'article, mais on m'a souvent parlé de cette idée-là, et financièrement parlant, il y a des entreprises qui ne pourront jamais s'offrir ce que vous dites, donc à travers la loi travail. Donc comment faire?
Mais merci Artus pour cette question. Éric Blanchet, comment faire?
Alors, on parle beaucoup de l'entreprise. On parle beaucoup de l'entreprise et on attend beaucoup de l'entreprise, ce qui est assez normal. Après, l'entreprise, elle a sa règle du jeu. Sa règle du jeu, c'est de faire du chiffre d'affaires et de gagner de l'argent. Et souvent, on a voulu faire croire que l'entreprise n'était pas en capacité de pouvoir apporter une réponse sur l'emploi des personnes handicapées. Ce qui est totalement faux aujourd'hui, ça dépend comment les choses sont portées, comment elles sont accompagnées. Et si vous voulez, aujourd'hui, on peut s'apercevoir que c'est que depuis 2005 qu'en France, le handicap psychique est un handicap qui est reconnu en tant que tel. Aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a une fragilité de la société sur ces sujets-là, que valides ou handicapés se rejoignent sur une forme de fragilité qui percute les organisations dans les entreprises actuellement. Et qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient grandes, c'est un véritable défi aujourd'hui de ces organisations pour répondre. Et je ne vais pas être trop long, je rajouterai aujourd'hui, par rapport à l'imagerie qu'on a sur le handicap, souvent on pense personne handicapée en fauteuil, personne handicapée aveugle, bien entendu, mais il y a toutes les formes invisibles du handicap qui existent, qui vont devoir être accompagnées. Les maladies invalidantes, comme le cancer, comme des maladies comme la sclérose en plaques, créent aussi une forme de handicap. Et on doit accompagner, c'est-à-dire que l'accompagnement va bien au-delà, en fin de compte, d'un accompagnement médico-social. C'est un accompagnement global qu'il faut faire, et cet accompagnement doit se faire aussi bien sur les entrepreneurs sur les managers que sur les personnes handicapées.
Justement, à ce que vous dites, et aussi en prolongement du témoignage d'Artus, je vous soumets le commentaire de Marie-France à Quimper qui nous écrit sur franceinter.fr. Il existe beaucoup d'aides publiques différentes pour aider les entreprises à employer des personnes handicapées, mais les chefs d'entreprise ne le savent pas. Philippe Charrier, vous êtes au contact direct des entreprises. Oui. Elles sont au courant ou pas ?
Généralement, oui. Disons-le. Hein. Généralement, oui. Il y a de l'appréhension, comme je l'ai dit, de la part de l'entreprise. Je voudrais revenir sur le commentaire d'Artus qui me paraît vraiment très fort. Il dit « Je n'ose pas parler de ma vulnérabilité psychique. » Et parce que finalement, on stigmatise ces maladies. Prenons la schizophrénie, voyez-vous. J'entends sans arrêt des commentaires, telle attitude est schizophrénique, par exemple. Mais des gens qui souffrent de cette maladie réagissent très mal à ça. Et généralement, le mot schizophrénique est utilisé à tort et à travers. Donc, pour Artus, je lui dis, contactez le Clubhouse. Tenez, venez nous voir. Et puis, on va regarder ensemble si on peut pas faire quelque chose. Alors, on va être pratique, là. Clubhouse, dans Internet, vous trouvez toutes les coordonnées. Je m'appelle Philippe Charrier. Venez nous voir et on va regarder.
Mais je me mets de l'autre côté. Je suis entrepreneur, petit chef d'entreprise, une vingtaine de salariés. J'ai un candidat à l'embauche qui arrive et qui ose m'avouer qu'il est schizophrène. Bah, excusez-moi, mais je vais peut-être avoir des doutes ou même des réticences à l'employer.
Alors,
à l'embaucher.
Parce que la maladie est mal connue. Moi, j'ai recruté des personnes dans mes entreprises qui souffraient de schizophrénie. On peut tout à fait trouver un travail adapté. Ce qui est important, c'est rapprocher les compétences de la personne avec les besoins de l'entreprise. Créer la congruence et accompagner dans la durée les relations entre la personne qui souffre d'un handicap et l'entreprise. Ce que nous faisons, on l'accompagne pendant des années. Ce qu'il faut savoir, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on a des études aujourd'hui très claires qui nous disent que le retour à l'emploi diminue considérablement les hospitalisations, notamment dans le domaine psychique et psychiatrique. On a, voyez-vous, moi j'ai recruté une personne qui est passée de 2 fois 2 mois d'hospitalisation par an depuis l'âge de 14 ans, elle avait 40 ans, à 2 fois 2 jours par an parce qu'elle travaillait chez nous et que ce travail donne cette reconnaissance. Le travail donne cette estime de soi.
Il y a l'effet bénéfique de l'insertion.
Vous avez tout compris.
Enfin, l'insertion.
Voilà.
On repart au standard où Gilles nous appelle de Cherbourg. Bonsoir Gilles, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci pour mon témoignage.
Merci à vous, on vous écoute.
Donc je tiens d'abord en premier lieu à rendre hommage à la grande majorité des acteurs du secteur adapté qui est honnête et qui est mû par une véritable volonté d'intégrer les personnes handicapées dans le monde du travail. Mais il y a un souci avec la loi du 11 février 2005, qui est vraiment naïve et ne prévoit aucun contrôle et aucune sanction. La conséquence, en fait, c'est que certaines entreprises du milieu adapté profitent de certaines failles et détournent, en fait, la loi. Ce qui peut expliquer, effectivement, le faible taux d'emploi direct de salariés handicapés. En fait, donc, je vais revenir un peu sur la loi pour les gens qui ne connaissent pas. La loi prévoit, en
Allez-y.
Fait... que 6% dans les entreprises de plus de 20 salariés, 6% doivent être handicapés dans le privé, 4% pour le public. Faute de quoi, on doit payer une cotisation, donc à une caisse, la GFIP ou le FIP pour le public. Et il est possible de s'affranchir de 50% de cette obligation en faisant appel au secteur adapté. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas d'emploi direct, mais d'emploi indirect. Donc, en soi, c'est très bien, c'est plutôt encourageant, mais... comme la loi ne prévoit pas de contrôle et part du principe que les employeurs sont de bonne foi, certaines brebis galeuses en profitent et détournent complètement en fait le but de la loi. Alors, je vous explique. Quand on fait appel au secteur adapté, donc un ESAT ou une entreprise adaptée, donc on se fait remettre avec sa facture des unités bénéficiaires. C'est une sorte de compensation en fait à l'emploi. En fait, à l'emploi d'un salarié handicapé. Une unité bénéficiaire égale un salarié handicapé à l'année à temps complet. Donc ce qui se passe en fait, c'est que ceux qui trichent en fait vont tricher sur la méthode de calcul qui est assez absconce en fait, les unités bénéficiaires, parce qu'en fait elles ne sont pas basées sur un temps de travail réel des salariés handicapés, mais sur une formule basée sur le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires divisé par 2000 fois le taux horaire du SMIC. Et pire que ça, certaines entreprises font carrément appel à de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'elles vont sous-traiter le travail au secteur ordinaire, mais vont quand même reverser des unités bénéficiaires. Donc la conséquence, en fait, elle est claire, c'est-à-dire que l'AGFIP et le FIP vont percevoir moins de cotisations, mais à côté de ça, bah, le taux d'emploi handicapé ne progresse pas.
C'est assez effrayant ce que vous nous décrivez, Gilles. J'aimerais ajouter à tout ce que vous nous racontez, c'est précis, une question d'Erwan, justement, qui nous dit qu'en est-il de ce seuil du 6% de personnes en situation de handicap en entreprise ? Certaines entreprises préfèrent-elles toujours payer l'amende plutôt que d'envisager des aménagements ? Éric Blanchet, comment vous recevez ces deux témoignages ?
Alors pour les 6%, je crois qu'aujourd'hui il y a quand même eu une prise de conscience dans l'entreprise et dans les services publics du rôle aussi de ces derniers pour faire évoluer l'insertion des personnes handicapées. Ça bouge trop lentement, beaucoup trop lentement. Il y a la crise économique, mais des fois on utilise la crise économique de telle manière dans
les mots de Gilles sont forts. Hein. Gilles nous dit détournement de la loi. Visiblement, alors, il connaît bien le sujet.
Comme dans tout sujet, vous avez des bons et des brebis galeuses. Je ne vais pas dire le contraire de ce que Gilles dit parce que ça existe réellement. C'est pas la majorité des acteurs, heureusement, mais néanmoins, ce qu'il a décrit très précisément est une vraie forme de réalité et de dérapage, bien entendu. Après, comme je vous le disais, ce n'est pas la majorité des acteurs, des ESAT ou des entreprises adaptées qui aussi jouent le jeu vis-à-vis de l'entreprise. Par contre, ce qui est important et ce que l'on vise aujourd'hui dans notre société dite inclusive, c'est de permettre à la personne de trouver une place dans la société à travers le travail, entre autres. Et c'est vrai que l'emploi direct est un chemin que l'ADAPT a pris, parce que nous pensons aujourd'hui qu'il n'est pas impossible que 6%, voire plus, de personnes handicapées, si elles sont bien accompagnées, si elles sont bien formées, parce que le problème de la formation est un problème encore important aujourd'hui, parce que tout n'a pas été réalisé. Et puis, pour les générations qui viennent, l'accès à l'école pour les jeunes reste encore un problème entier, qu'il faut faire évoluer.
Formation et école, on va forcément y revenir, parce qu'il y a énormément de témoignages en ce sens. Mais j'aimerais encore revenir sur ce que dit Gilles. Au-delà du mécanisme de détournement décrit qui est assez complexe, Gilles nous dit aussi, il n'y a pas de contrôle. C'est vrai, il n'y a pas de contrôle, Philippe Charrier ? Une entreprise peut frauder, détourner la loi, il n'y a pas de contrôle.
Il y a des contrôles. Ce que nous dit Gilles, c'est qu'ils sont parfois insuffisants. Mais ce que je voudrais dire à Gilles, et puis à Erwan aussi, c'est que l'intérêt bien compris des entrepreneurs est de jouer le jeu de l'insertion. Je vous dis quelques chiffres. Il y a aujourd'hui 2 millions de personnes en situation de handicap psychique. 2 millions. Ça coûte à la société, tout compris, une centaine de milliards d'euros par an. Ça, c'est payé notamment par les entreprises via les contributions sociales qu'elles font. Nous savons, nous, qu'en insérant ces personnes dans le travail, on économise 2/3 des dépenses de santé. Et vous voyez, si on arrive à l'insertion, les entreprises non seulement bénéficieront des avantages du 6%, mais bénéficieront encore plus de la baisse des frais, des charges sociales, du fait d'une moindre incidence d'hospitalisation.
Donc c'est du gagnant-gagnant. Hein.
Exactement,
d'accord.
Tout à fait.
Je vous livre à tous les deux témoignages, parce que là on a peut-être tendance à penser secteur privé, il faut aussi parler du public. Raymond, franceinter.fr, nous écrit « J'ai été dans l'administration pendant 42 ans, je n'ai quasiment pas vu de handicapés, l'État devrait donner l'exemple. » Et puis Marie, qui nous dit « Dans l'éducation nationale, je suis devenu travailleur handicapé, dans les faits il ne se passe rien, je ne peux plus travailler, car il n'y a pas d'aménagement pour mon handicap, je suis donc maintenant en arrêt de travail. » Service public, ça donne l'exemple. Ça...
Ce sont une forme de réalité. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le service public aujourd'hui est à peu près à 5% en termes de taux d'emploi. Donc, c'est que ça a bougé parce qu'on est parti vraiment de très très loin. Et en fonction des collectivités territoriales ou des ministères, vous allez avoir des résultats extrêmement différents. Le FIP et HFP a sensibilisé et fait en sorte que les choses évoluent. Il faut quand même revenir un peu en arrière, même si on peut dire que les choses évoluent. Il y a plusieurs années, 20 ans, parler d'une personne handicapée et parler de travail, c'était incongru. Une personne handicapée était vue comme une personne assistée. point final par la société. Et quand on a créé, l'ADAPT a créé la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, il y a eu très peu d'acteurs qui au départ se sont embarqués dans cette histoire-là. Or aujourd'hui, et même si c'est largement pas suffisant, parce que les résultats de 486 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui, c'est inacceptable pour une société dite inclusive. Néanmoins, aujourd'hui, on a embarqué autour de ce sujet un certain nombre d'entreprises, de PME, qui veulent jouer le jeu et qui ont compris l'intérêt, comme disait monsieur, en fin de compte, de participer non pas à un effort collectif, parce qu'on n'est pas là-dedans. On est bien entendu dans d'accompagner et de faire en sorte d'avoir des compétences différentes dans l'entreprise, puisque l'arrivée de personnes handicapées a aussi, en termes de management, des conséquences extrêmement positives pour les entreprises.
C'est ce qu'on redisait le gagnant-gagnant de Philippe Charrier. On repart au standard où Claude nous appelle de Vendée. Bonsoir, soyez la bienvenue, Claude.
Bonsoir, je vous appelle parce que mon fils qui a 50 ans, je suis la mère d'un fils de 50 ans, a postulé pour un emploi dans une association qui se monte et qui s'appelle les Jardins Féodaux. Voilà. Ce matin, il avait rendez-vous pour justement pour cet emploi, et on lui a dit que comme il touchait l'allocation adulte handicapé, il ne pouvait pas postuler. J'ai trouvé ça très bizarre, parce qu'il a déjà travaillé il a déjà travaillé et son allocation venait en diminution de son salaire. Alors là, je n'ai pas compris et j'aimerais avoir des explications.
Mais comment vous l'interprétez, Claude, justement ?
Je trouve ça très bizarre parce que déjà, c'est une petite entreprise qui se monte, qui, je crois, doit recruter 70 personnes à peu près pour monter ses jardins féodaux, et on lui déclare ce matin que, il touche l'AH, donc il ne peut pas postuler pour cet emploi.
Merci Claude pour cette question. Philippe Charrier, donc cette personne qui touche l'AH, l'allocation adulte handicapé, et qui, cette allocation devient un frein, vous y croyez ? Ou là c'est vraiment une technique de l'entreprise pour s'en débarrasser, si j'ose dire.
Non, il y a un sujet. Claude, votre fils cherche un travail à plein temps, j'imagine, c'est ça ?
Oui.
Voilà, c'est ça. Effectivement, quand le travail est à plus de 50%, il y a effectivement un problème avec l'AH. C'est un vrai sujet sur lequel les associations travaillent. Donc Claude, effectivement, on doit bouger là-dessus.
C'est-à-dire, expliquez-nous exactement le mécanisme. Là. Si on dépasse les 50%, il se passe quoi ?
Eh bien, en tout cas pour le... Vous pouvez parler du handicap en général, moi je peux vous parler du handicap psychique et psychiatrique. Et bien dans pareil cas, on perd l'AH tant qu'on a cet emploi-là à plein temps. Bien évidemment, si vous perdez l'emploi, vous pouvez refaire une demande d'AH par la suite.
Éric Manchet, pardon.
Oui, mais ce que dit madame est un peu différent. C'est-à-dire que quelque part, on lui dit que quelque part, il ne peut pas être embauché du fait de l'AH. Ça n'a rien à voir. On a un problème de ressources, ça c'est clair. C'est-à-dire que quelque part, quand une personne est embauchée, si elle bénéficie de l'AH, il y aura un effet, en fin de compte, un effet ciseau. C'est-à-dire que si la personne gagne plus, elle perdra de l'AH. Mais rien n'empêche une personne de pouvoir travailler et d'avoir un contrat de travail. Je pense que la réponse qui a été faite, c'est une réponse peut-être pour ne pas répondre directement à la personne sur le fait qu'elle n'est pas retenue. Ça n'a rien à voir du tout. Après ce que dit Monsieur Charrier est la réalité. On a un problème en France sur les ressources des personnes handicapées, puisqu'on est quand même sur des systèmes qui précarisent les gens. Ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas de lien entre la AH et le fait de chercher du travail et d'être embauché. Si ce n'est un lien purement économique et d'équilibre.
C'est clair. Maude, bonsoir. Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc, moi je voulais témoigner de difficultés avec la MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, quand quelqu'un a un handicap, il doit passer par la MDPH pour notamment obtenir la reconnaissance. On parlait tout à l'heure de la AH, qui est l'allocation que les gens peuvent toucher. C'est aussi par la MDPH que ça passe. Et donc, ma fille a 22 ans, elle est malvoyante. Donc, c'est quelqu'un qui s'assume, hein, qui ne veut pas du tout se faire plaindre. Elle a passé le concours de l'école normale supérieure et elle a obtenu le concours. Donc, elle est passée en septembre d'étudiante à salariée. Elle a déménagé. Et donc, il faut mettre à jour son dossier auprès de la MDPH et il faut qu'elle obtienne la reconnaissance de travailleur handicapé, donc RQTH. Et là, elle doit passer l'agrégation de mathématiques. Et si elle n'a pas la RQTH avant le 1er décembre, elle ne pourra pas passer son concours.
Et c'est aberrant.
Ah oui, et elle ne parvient pas à obtenir une réponse, même un appel téléphonique, une réponse, même un accusé de réception de la part de l'administration.
Vous êtes sur quel département, madame ?
C'est Éric Blanchet, directeur de l'ADAP, qui vous parle.
Donc, elle passe de la MDPH de l'Essonne à la MDPH du Val-de-Marne.
Alors, ça dépend des... Oui, pardon, ça dépend des départements.
Et donc, on a eu à faire 4 MDPH, puisque comme elle va toujours de l'avant, elle déménage beaucoup. Et chaque fois, c'est pareil. Donc, on a des administrations qui sont tellement surchargées que les délais de réponse, la prise en charge des gens, elle est presque maltraitante.
Ah oui, vous y allez fort, mais oui, on comprend. Maud et Éric Blanchet vous répond.
C'est la réalité de certaines MDPH et ça n'explique et ça n'excuse surtout pas. C'est vrai que les transferts de dossiers administratifs sont souvent des situations de désespoir pour les gens. Vous parlez de maltraitants, je suis d'accord avec vous, madame. Ce sont des situations qui sont inacceptables aujourd'hui du fait qu'en fin de compte, votre enfant veut progresser, va vers l'autonomie et puis veut trouver sa place dans la société et pour des raisons administratives, ça ne peut pas fonctionner. Les associations dont nous faisons partie ont alerté à plusieurs fois la CNSA, enfin les organisations, pour qu'on puisse améliorer les délais de traitement. Après, madame, il faut revendiquer ça auprès du défenseur des droits aussi. Il faut aller témoigner devant le défenseur des droits de ces situations pour qu'on les fasse bouger. C'est totalement anormal.
Message très clair, une fois encore, merci Éric Blanchet. On repart au standard. Monique nous appelle du Pays Basque. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir messieurs. Bah, écoutez, moi, ma remarque va être un petit peu la même par rapport aux soucis administratifs. Voilà, je suis entrepreneur, je veux embaucher une personne handicapée. Je sais déjà quelles sont les lourdeurs administratives sans rentrer dans des processus un peu particuliers. Alors là, que va-t-il se passer? Quelles sont les aides que j'ai et comment est-ce que ça se passe?
Ben merci, c'est bien d'avoir un chef d'entreprise qui nous appelle, d'avoir l'autre côté, Philippe Charrier. Comment aider cette chef d'entreprise?
Ah ben qu'elle me contacte, hein. C'est certain qu'on va...
au-delà de Clubhouse,
Charrier, on va régler votre problème. Écoutez, ça rentre dans le quota des 6%, la loi est claire. Je crois que le sujet fondamental derrière cette question, derrière la question là de Monique, si on la généralise, c'est... On a un problème d'innovation en France pour l'insertion des personnes souffrant d'handicap. C'est extrêmement difficile d'innover pour apporter des solutions à la fois aux personnes qui souffrent de handicap et aux entreprises qui veulent les employer. Exemple Clubhouse. On a démarré ça, on était à 100% de financement privé, 100%. Ça fait 5 ans qu'on travaille, on a 200 personnes, on ouvre à Lyon, c'est 200 de plus. En 10 ans, on envisage de passer à 2000 personnes qu'on va aider à trouver un travail. On n'a toujours pas obtenu de la part des services publics des fonds récurrents. Donc aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise de cette association-là, je me trouve avec des dépenses récurrentes et en face, aucun fonds public récurrent. Et voyez-vous, voilà pourquoi il n'y a pas assez suffisamment d'aide aux entreprises. Parce que l'innovation dans ce pays n'est pas financée.
Enfin là, Philippe Charrier, pardonnez-moi, mais c'est vous qui n'aidez pas Monique. Monique, elle veut des réponses concrètes.
Je lui ai dit
non, mais concrètement, au-delà de Clubhouse, et très bien, vous faites votre pub, mais au-delà de Clubhouse, on se dirige vers qui pour avoir des informations précises et concrètes quand on est, comme Monique, chef d'entreprise, voulant intégrer un ou plusieurs handicapés? Éric Blanchet.
Est-ce que vous avez pris contact avec la GFIP, madame?
Non, pas du tout.
Alors, je pense que il y a sur le site internet de la GFIP.fr un certain nombre de conseils et de consultants qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là. et aussi élargir en fonction des compétences que vous recherchez, parce qu'avant tout vous allez rechercher une compétence, de faire le lien avec un certain nombre d'associations, donc Clubhouse ou l'ADAPT ou d'autres, qui permettraient à travers des job dating, des rencontres, puisque nous préparons des candidats et quel que soit leur type de handicap, à trouver des métiers. Il y a aussi ça qui peut exister dans nos associations, et de faire le lien avec des PME, des petites entreprises ou des grosses entreprises. La semaine pour l'emploi, si vous voulez, aujourd'hui, qui est organisée, ça sert à ça aussi. Ça sert à mettre et à faire le lien entre la personne qui cherche du travail et l'entreprise qui peut proposer. Après, j'entends bien les problèmes purement administratifs, la lourdeur. La France, malheureusement, fait partie est à peu près spécialiste sur tout ce qui est lourdeur administrative. Néanmoins, c'est un combat qu'on doit mener ensemble pour permettre justement une évolution positive. Mais madame, je crois que contacter déjà la GFIP, je pense que c'est un premier niveau de réponse qui pourrait vous apporter, je dirais, des conseils.
On reste en compagnie de chef d'entreprise. Sylvain nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Blanchet.
Bonsoir, monsieur.
Donc, oui, je vous l'appelle. Donc, je suis dirigeant d'entreprise adaptée en Seine-et-Marne et membre et j'ai des fonctions également au sein de l'association qui représente l'ensemble des entreprises adaptées aujourd'hui sur le territoire qui s'appelle l'UNEA. Et je voulais réagir rapidement à des propos de certains auditeurs, notamment sur les certaines dérives qui peuvent être constatées dans les prestations qui sont confiées à des entreprises adaptées dans le cadre de l'obligation d'emploi. Certes, effectivement, peut-être qu'il existe certaines dérives pour l'ensemble de ces entreprises, et elles représentent plus de 750 entreprises adaptées aujourd'hui en France. Elles professionnalisent, elles mettent en situation d'emploi des personnes qui en sont très éloignées, hein, et c'est un secteur ô combien dynamique, puisque il y a 25% de croissance d'entreprises adaptées sur les 5 dernières années, c'est 5000 emplois créés. On parle beaucoup de chômage en ce moment, mais il faut aussi parler de la création d'emplois pour des personnes en situation de handicap. Certes, bien évidemment, ce n'est pas assez. Pour autant, l'augmentation importante du taux de chômage handicap est liée, je pense, aussi à deux choses qui me paraissent extrêmement importantes. La première, c'est aujourd'hui l'inadéquation entre le marché du travail et les personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi. Je vais donner juste un chiffre. Hein. Aujourd'hui, sur les près de 500 000 personnes, à plus de 80%, ces personnes ont un niveau de formation 5-6, voire infra. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les entreprises adaptées ont un rôle important en termes de professionnalisation de la personne. Et cette professionnalisation a pour but de sécuriser le parcours de la personne tout au long de sa vie. Donc ça, c'était le premier point. Le second, également, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, le handicap commence à être un peu mieux considéré dans les entreprises, et les personnes qui sont porteuses de handicap ont moins de réticence à déclarer leur handicap. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui se déclarent et qui bénéficient d'une RQTH, ce qui bien évidemment a fait aussi
Sylvain, excusez-moi de vous couper, mais le temps presse et tourne. À vous entendre, si je résume, ça va quand même nettement mieux, mais qu'est-ce qui manque encore concrètement pour que ça aille encore mieux?
Il faut une politique beaucoup plus volontariste de l'État. Alors je sais qu'il y a des compressions budgétaires, mais on démontre tous les jours aux entreprises adaptées qu'on a un modèle vertueux qui permet de faire des économies à la collectivité. Et donc il faut renforcer le soutien aux structures qui embauchent majoritairement les personnes en situation de handicap, que ce soit des entreprises adaptées et bien évidemment sans oublier les ESAT.
Très clair, Sylvain. Éric Blanchet.
Écoutez, il y a une chose aussi qui est importante aujourd'hui. La France a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Il faut que nous arrivions, et je dis bien nous, à permettre à la personne de faire des choix aussi. C'est-à-dire que quelque part, il y a les entreprises adaptées, il y a le milieu ordinaire, et il y a le choix de la personne. Et quelque part, bon nombre de personnes handicapées aussi se retrouvent des fois coincées dans des impasses, parce qu'on ne permet pas justement qu'elles aient un choix à faire, un peu de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin de réaffirmer, en fin de compte, cet espace-là. Et les entreprises adaptées ont un rôle extrêmement important pour faire le pont avec le secteur normal de l'entreprise, ou tout simplement pour les personnes qui ne peuvent pas aller dans l'emploi dans l'entreprise, permettre à ces personnes de travailler. Mais n'oublions pas que ce sont des citoyens et qu'on doit leur permettre d'évoluer dans la société civile aujourd'hui.
Pour conclure, et ce sera certainement l'objet d'un autre téléphone sonne toujours sur le handicap, Jean-François à Tourcoing qui nous dit « L'insertion des handicapés dans le monde du travail commence d'abord par l'école Et ça, tout le monde l'oublie, rien n'est fait, ou presque, par l'éducation nationale. On aura certainement l'occasion d'en reparler sur France Inter. Éric Blanchet, directeur général de l'ADAPT, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Charrier, président de Clubhouse France, merci beaucoup, votre association est dans une poignée de secondes au journal de 20h.